conférences et débats.
Voilà, donc bonjour à tous et soyez les bienvenus pour cette rencontre consacrée aux influences littéraires. Autrement dit, comment, lorsqu'on est un écrivain, on nourrit son imaginaire et également son champ de réflexion et d'investigation de la lecture des autres écrivains. Et pour en discuter, deux auteurs que je vous présente tout de suite, que vous connaissez, j'imagine. Metin Arditi, écrivain suisse d'origine turque. Vous avez enseigné à l'École polytechnique fédérale de Lausanne. Vous présidez l'orchestre de la Suisse romande et une fondation qui s'intitule « Les instruments de la paix Genève ». Vous êtes romancier et essayiste. Votre premier roman date de 2004. Il s'appelait Victoria Hall. Il est paru aux éditions Pauvert. Et le dernier s'intitule L'enfant qui mesurait le monde. Il vient de paraître aux éditions Grasset. Alain Mabankou, né à Pointe-Noire, donc c'est au Congo, Congo-Brazzaville. Le creuset de votre inspiration, vous avez fait en France des études de droit des affaires. En 2001, vous avez quitté la France pour les États-Unis où vous êtes professeur de lettres à l'Université de Californie à Los Angeles. Vous occupez, ou vous avez occupé, parce que je crois qu'on arrive au terme de cette période-là, la chaire de création artistique au Collège de France depuis 2015. Et parmi vos derniers livres, je voudrais en citer quand même quelques-uns. En 2005, Vers cassé, qui avait reçu le prix des 5 continents. Mémoire de Porc-Épic, en 2006, le prix Renaudot. En 2009, il y a eu Black Bazar. Un essai également qui date de 2012, Le sanglot de l'homme noir. Petit Piment, qui est paru l'année dernière. Et puis votre dernier livre, qui s'intitule Le monde et mon langage, paru aux éditions Grasset. Alors bien sûr, pour entrer directement dans cette question des influences littéraires, il faut d'emblée poser la question des lectures. C'est-à-dire que pour vous, Alain Mabankou et Metin Arditi, est-ce que être écrivain, c'est d'abord et avant tout être un lecteur, Alain ?
Ça marche, Joël.
Oui, ça marche.
Bon, je pensais qu'on allait commencer par ordre alphabétique.
Est-ce que c'est l'ordre alphabétique du prénom ou du nom ?
Du nom.
Ah, du nom. Ah,
c'est
bon,
nom,
d'accord.
Mais, comme Métis,
mais vous allez de toute façon répondre tous les deux.
Voilà.
Donc.
Oui, c'était quoi déjà la question ?
Il est distrait en plus, hein, il est distrait. Voilà. Non, mais c'est. Alors, cette question des influences, oui. Bien sûr, elle pose la question de la. Du fait que les auteurs sont aussi de grands lecteurs, oui. Chose que l'on oublie parfois, mais sur laquelle il faut vraiment insister. Donc, oui. La pratique de l'écriture, elle est indissociablement associée à la lecture.
Oui, la lecture est essentielle pour venir à l'écriture. La lecture, c'est elle qui suscite la vocation. C'est un peu cette pratique régulière, parce que déjà, celui qui lit, par essence, et dans la solitude, mais avec le monde. Je peux être dans la case de mon père, puisque si je parle de cette baraque qui était la nôtre, c'était en planche avec des tôles. Quand il pleuvait, il y avait une musique à défier toutes les symphonies occidentales les plus réussies. Alors, donc, à cette époque-là, quand on entendait le premier, on ouvre un livre, on est en train de lire Gabriel Garcia Marquez. Mais dans la maison, ma mère, l'analphabète, ne sait pas que je suis en Colombie. Mon père, qui est réceptionniste, ne sait pas que je suis dans le village de Macondo, que je suis dans le réel, le merveilleux. Et cette sorte de discussion à travers sa propre solitude, en entrant dans un univers du monde, à la fin, quand vous avez fini de côtoyer cela, ça continue à vous travailler. Vous continuez à dialoguer quelque part. Il y a une sorte de réponse intérieure qui va faire qu'un jour, vous voulez aussi reconstituer votre monde. Peut-être approcher ce réalisme merveilleux que vous avez découvert dans le livre. Donc, la lecture est en elle-même essentielle. Je dirais même que les écrivains sont des grands lecteurs. Mais ce que j'ai constaté aussi, plus vous commencez à écrire, plus vous êtes à l'intérieur, en tout cas en ce qui me concerne, on devient de moins en moins lecteur. Parce qu'on est en train de mouliner, de préparer quelque chose. On devient, c'est vrai, de moins en moins lecteur, mais il faut combattre justement cette sorte de paresse qui fait que, bon, puisqu'on écrit, on se dit qu'on lit de moins en moins. Il faut lire. C'est des opérations d'entretien. C'est-à-dire que vous retournez, la machine est là. C'est pas parce qu'elle est là qu'on vous a donné une BMW qu'il faut pas passer de temps en temps dans l'entreprise d'entretien. Donc, l'entretien va vous permettre, un, de pouvoir vous assurer que vous avez toujours cette petite musique qui vous poussait à entrer dans cet univers. Et de deux, ça vous permet aussi d'avoir de l'humilité. Quand vous commencez à avoir la grosse tête, vous lisez une page d'un grand écrivain, ça vous rend petit, vous dites « j'ai encore du chemin, je dois travailler ». Donc je pense que l'écriture, c'est d'abord la lecture. Ça vous permet de voir ce qui a été fait, ce qui a été dit. Ça vous permet de vous faire des amis littéraires, des grands-pères ou des pères littéraires, pour plus tard, si ça marche pour vous, d'avoir aussi des descendants en littérature. Donc c'est pour cela que je pense que beaucoup de jeunes écrivains viennent me voir, grand frère, j'ai déjà écrit tel manuscrit, vous posez une question, tu as déjà lu tel livre de Camus, ah bon, tu as déjà lu tel livre de... Ils n'ont rien lu et ça se ressent directement. Mmh. Il ne s'agit pas pour celui qui écrit d'être le perroquet de tout ce qu'il a lu, mais il s'agit pour lui de s'assurer qu'il entre dans un monde et de regarder à travers ce monde complexe le petit espace qui reste où il va se mettre, lui, s'asseoir, j'ai dit, ça c'est ma place, j'y reste et je vais l'entretenir jusqu'à la fin du monde.
Métier Narditi, pour vous, de quelle nature est ce lien indispensable, nécessaire, presque vital entre l'écriture et la lecture?
Alors, mon parcours a été radicalement différent de celui d'Alain. Je découvre celui d'Alain, il est très touchant. Au fond, tu étais entouré et tu trouvais par la lecture une façon d'accéder à une belle solitude. Dans mon cas, c'était tout à fait différent. Lorsque j'ai eu 7 ans, mes parents qui étaient en Turquie m'ont mis dans un internat. Et cet internat, on risque de passer devant, il est à Podé, et j'y ai passé 11 années. Et j'étais dans cet internat dans une très grande solitude, immense solitude. Mes parents étaient loin et à l'époque, la géographie de la Terre n'a pas changé, mais à l'époque, les distances n'étaient pas ce qu'elles sont aujourd'hui. On ne téléphonait jamais, on s'écrivait très peu, etc. Un jour, mon père est venu, comme il passait me voir à peu près chaque 3 ou 4 mois, pour un soir. Il venait de Turquie en Europe pour ses affaires, il s'arrêtait à Lausanne. Il me sortait, on faisait 2-3 achats, il me ramenait le lendemain à l'école. Un jour, il est venu, on avait des achats à faire. Je me souviens très bien que je voulais absolument, c'est une grosse bêtise de ma part, mais c'était aussi une façon pour moi d'essayer de mieux m'intégrer à l'école. Je voulais qu'il m'achète une tenue de hockey sur glace, parce que l'école avait commencé à jouer du hockey sur glace, et moi j'avais un affaissement des plantes, et je ne pouvais pas bien patiner, mais je tenais absolument... C'était une tenue très chère. Et c'était l'époque où la livre turque s'était écroulée. C'était difficile pour mes parents déjà de payer les collages qui étaient élevés. On va à Lausanne, à l'époque ça s'appelait Schaeffer Sport, on achète la tenue, on sort du magasin et on devait acheter des livres chez Payot qui était à l'époque juste en face, tout en bas de la rue de Bourg. Je dis à mon père, on a dépensé beaucoup d'argent, n'est-ce pas? Et il me dit, oui, c'est vrai. Et j'ai dit, est-ce qu'il faut vraiment qu'on achète les livres? Et il m'a répondu, alors toi, tu as dit, ta maman était illettrée, moi, mes deux parents ont quitté l'école à 14 ans, tous les deux. Et mon père m'a répondu par ces mots, les livres, c'est autre chose. Et ces mots ont changé ma vie, j'y pense encore, j'y pense très souvent, et j'ai trouvé... dans la lecture, à partir de là, et ensuite, parce que je devais avoir 11 ans, et ensuite, l'année d'après, j'ai commencé à écrire, évidemment très mal, mais peu importe, j'ai trouvé dans la lecture une manière de métamorphoser ma solitude. C'est-à-dire que de là où la solitude que je ressentais était une solitude honteuse, parce que c'était une solitude qui portait en elle l'échec d'une insertion, tout à coup, ma solitude est devenue glorieuse. Et la lecture, il y a trois choses qui ont contribué. D'abord, c'était la lecture. L'année d'après, c'était l'écriture. Et ensuite, avec les années qui ont suivi, le théâtre, qui est aussi une façon de métamorphoser sa solitude. Et à partir de là, lorsque j'ai commencé à écrire, il y a eu en quelque sorte une sorte de fusion, de retrouvailles entre deux forces. La première, je pense que je devais la porter dans mon ADN, c'est-à-dire le goût des histoires. Ça, c'est oriental. On aime raconter des histoires. Je pense que dans ton pays, c'est la même chose. C'est proprement le cas de toutes les civilisations qui sont des civilisations de l'oralité. On raconte des histoires, on me racontait des histoires quand j'étais enfant, ma mère le faisait, donc j'ai toujours eu un très grand goût pour cela. Et l'autre chose, évidemment, puisque j'étais en territoire francophone, à l'école, la découverte absolument essentielle en matière de littérature, c'était Maupassant. Et donc, j'avais 13 ans ou 14 ans et j'ai lu tout Maupassant. À l'époque, il y avait ces éditions qu'on appelait les éditions Rencontres. Alors, j'étais abonné, on m'avait abonné. C'était 5 francs le livre. Le livre était assez épais. Et donc, je les ai tous encore dans ma bibliothèque. Et pour moi, c'était vraiment le début d'un amour immodéré pour les belles histoires racontées avec beaucoup de simplicité, beaucoup d'élégance. La langue de Maupassant est quasiment inégalable, en tout cas en matière de conte romanesque. Et puis ensuite, une chose en amenant une autre. Voilà. Mais le point de départ de la lecture, c'était, au fond, cette rencontre entre un goût qui venait de loin et un auteur qui répondait à ce goût qui était Maupassant.
Alors, pour voir de façon peut-être un peu plus précise ce que sont vos influences en matière littéraire, Alain Mabankou, moi, je voudrais vraiment insister sur une chose que j'ai mentionnée tout à l'heure, mais qui me semble extrêmement importante. Vous êtes vraiment celui par qui l'Afrique est entrée dans une grande institution française, qui est le Collège de France. Autrement dit, grâce à vous et avec vous, et accompagné par un certain nombre d'autres, bien sûr, écrivains, des grands noms, des écrivains et des penseurs africains ont fait leur entrée dans ce lieu qui est un haut lieu de la pensée française. Est-ce que c'était pour vous aussi une manière de rendre cette dette? Parce qu'en fait, quand on parle d'influence, il y a aussi des dettes vis-à-vis de ceux qui nous ont précédés. Cette dette vis-à-vis de ce continent qui est, comme vient de le dire Metin Arditi, un continent fait d'abord de littérature orale, précisément. Est-ce que c'était une manière de rendre tout ce dont vous aviez hérité?
Oui, il y a aussi le fait que, il faut le préciser, quand le Collège de France m'avait contacté pour m'attribuer la chaire de création artistique, le Collège de France ne savait pas que j'y allais pour enseigner la littérature africaine. Ils avaient appelé un écrivain. Vous avez chaire création artistique. Mais moi, dans ma conception, je mets la littérature dans l'art. Dans les pages de littérature ou de culture aux États-Unis, on met art au pluriel avec S. À l'intérieur, vous avez tout, la littérature, le roman, le théâtre, la peinture. Ça faisait cet ensemble-là. Donc, le collège me contacte. Moi, comme beaucoup de gens, j'avais mis les pieds au Collège de France. Moi, je croyais que c'était un petit je ne sais pas, conclave de la franc-maçonnerie, parce que quand je passais devant, ça faisait toujours peur. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a là avec la statuette de Champollion qui marche? Donc, je passais dans cette rue pour aller aux éditions Présence africaine. Et moi, je me disais, oh, ça doit être l'endroit peut-être poussiéreux de la pensée française. Parce que quand on dit, oui, il y a eu Foucault, il y a eu tout, j'ai dit, c'est pas pour moi. J'ai passé. Quand je reçois un mail du collège, notamment d'Antoine Compagnon, oui, nous avons eu une réunion, on souhaite avoir un écrivain au Collège de France et votre nom revenait. Alors bon, j'ai cherché des raisons, mais pourquoi moi, tout. Bon, j'ai vu laisser passer. J'ai écrit à un de mes amis très proches, Achille Mbembe, qui est un des grands penseurs africains. J'ai dit, mais je ne comprends pas, le Collège de France m'écrit, il me dit, mais tu es fou, c'est le temple de la pensée française. Hein? Et il a dit, beaucoup de gens tueraient leur mère, voire même toute leur famille pour y entrer. Et puis il me dit, je te rappelle que Léopold Sédar Senghor, qui était à l'Académie, était frustré parce qu'il n'était pas au Collège de France. Il dit, ah bon ? Oui. Et ben, je prends tous les livres, sans répondre encore au Collège, je prends tous les livres qui traitaient du Collège de France. Je commence à lire le François Ier, les Marguerite de Navarre, le XVIe siècle, la lutte avec la Sorbonne. J'ai dit, mais c'est pas mal ce truc. Donc j'étais tellement mal, j'ai dit, OK. Et puis je regarde le programme. Depuis le XVIe siècle, donc depuis 1530, jusqu'en 2016, on n'avait jamais enseigné la littérature africaine au Collège de France. Toutes les disciplines étaient là. On avait tout, hein, la littérature orientale, la littérature des troubadours, il y avait tout. On enseignait tout au Collège de France, sauf la littérature africaine. Et là, j'ai dit, je vais amener la littérature africaine au Collège de France. Et c'est là que j'ai commencé à concevoir, sachant que depuis le XVIe siècle jusqu'à nos jours, on n'a pas enseigné la littérature africaine. Les gens qui viennent au Collège de France sont d'horizons différents. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de tel diplôme ou quoi. N'importe qui peut arriver. Il faut arriver juste à l'heure pour avoir la place. Donc voilà. C'est pour ça que les gens font la queue 2 heures avant pour être dans l'amphithéâtre. Si vous n'êtes pas là, vous êtes dans une des salles en haut avec écran. Donc vous voyez le professeur en haut. Donc ils me donnent cela et puis j'écris. Oui, j'accepte leur proposition et je leur dis voilà ce que je vais enseigner. Il faut dire que quand j'en vois, le programme que je vais enseigner, tout était détaillé. Lundi, j'enseignerai ça à de telle heure à telle heure. Ça traitera de ça et de ça. Mardi, donc, j'avais déjà tous les 10 cours que j'allais faire, les 10 séminaires et le colloque final que j'allais faire. Donc, je crois qu'ils étaient subjugués par l'esprit déjà américain où quand vous enseignez, les étudiants et les élèves doivent savoir. C'est pas comme quand je faisais les études, le professeur arrivait, bon, aujourd'hui on fait quoi ? Non, il faut que ça... Voilà, parce que j'ai eu des secours, le professeur arrivait, bon, on a déjà fini, bon, voilà. Donc là, c'était calibré, j'ai donné, et puis ils ont validé en quelque sorte. Mais ils avaient toujours cette idée en se disant que ça ne va pas drainer du monde. La littérature africaine, c'est confidentiel. C'est bien dommage. Il aurait fallu qu'il enseigne les techniques d'écriture. Les gens seraient venus parce qu'ils veulent être écrivains. Il y en a, bon, je l'ai fait. Et puis, j'ai commencé l'exercice le plus difficile, faire une leçon inaugurale. C'est-à-dire que tout Paris, la crème de la crème intellectuelle serait là. Les spécialistes, les non-spécialistes, ceux qui vous guettent pour que vous vous cassez la figure, ceux qui, les autres écrivains africains qui ne sont pas d'accord, pourquoi on a choisi lui, moi j'ai un doctorat, il n'en a pas. Donc il y avait une sorte d'angoisse qui était là. Donc j'ai lu beaucoup de leçons inaugurales et c'est là que je me suis dit, dans ma leçon inaugurale, ça va être comme un voyage sur la littérature africaine depuis les expéditions. Quand on allait rechercher certains lieux comme le Nil, le Niger, en passant par la littérature coloniale et de nos jours. Et c'est là que j'ai déroulé pratiquement toute cette littérature. On a entendu pour la première fois des noms d'écrivains qu'on n'entendait pas au Collège de France. Mais la grande surprise, c'était pour le Collège que quand ils ont commencé à recevoir les réservations. La salle Marguerite de Navarre, c'est 420 ou 460 places. Ils avaient reçu plus de 1000 réservations. Donc, ils étaient obligés d'ouvrir tout, d'avoir les sécurités. Les ministres en voulaient. François Hollande avait envoyé 5 ministres. Les anciens ministres étaient là, les Jacques Toubon, les conseillers de Ségolène Royal. Il paraît qu'Hollande avait dit, allez-y vous renseigner un peu sur la littérature africaine au Collège de France. Donc on arrive le jour J, le collège était débordé parce qu'il y a même des organes de presse qui ne parlent jamais du collège qui étaient là. Les Inroc, le Parisien. Le Parisien, c'est, on raconte pas les chiens écrasés, je sais pas des trucs, mais pas le collège. Ils ont fait... Bon, c'est vrai que certains journaux venaient pour faire des papiers sur les costumes que j'avais, puisque c'était rouge, flamboyant, parce que je me disais, Collège de France, je ne vais pas me mettre en gris. Déjà que j'ai des lunettes de Corbusier, je ne vais pas... Voilà. Donc, je ne vais pas le faire dans ce sens. Et effectivement, je ne me rendais pas compte que j'étais en train de traîner la littérature africaine à l'intérieur, de ramener les plus grands intellectuels africains qui ont tous répondu présents, Achille Mbembe, Souleymane Bachir Ndiaye, mais j'ai élargi, parce que la littérature africaine, ce n'est pas que des Noirs. Un type, un écrivain comme David Van Reybrouck, qui a écrit Congo, il est venu en parler, Pascal Blanchard est venu en parler, Catherine Cocchio est venue en parler, et donc du coup, ça a fait un événement qui a quitté même la France pour avoir des répercussions aux États-Unis, au point que ma propre université de Californie a commencé à avoir peur que j'accepte l'offre de rester désormais en France alors que je suis prof aux États-Unis. Donc, ils m'ont envoyé mon chef de département qui était là tous les jours pour éviter des conciliabules dans le couloir du Collège de France. Mais la littérature africaine était arrivée pour la première fois à l'intérieur du Collège de France et ils en étaient satisfaits. Deuxième constat, c'était que pour la première fois, dans les 1000, par la leçon inaugurale, c'était 1300 personnes. Et puis les cours, ça naviguait entre 900 et 1200 personnes. Et les gens faisaient la queue, comme j'ai dit, 2 heures ou 3 heures avant pour avoir la chance d'être dans l'amphithéâtre, pas dans les écrans au-dessus là-bas. Et une fois que ça avait été fait et qu'ils ont vu l'état, même, je leur ai dit, il faut au Collège de France inventer, établir une chaire d'études africaines. On ne peut plus ignorer l'Afrique. On ne peut plus ignorer une partie de l'imaginaire français. Donc, la fierté peut être cela. C'est pour cela que j'ai décidé de matérialiser cela dans un livre qui viendra. J'ai réuni tous les cours. Le livre s'appellera « Sortir des ténèbres », qui est cette aventure, à peu près 400 pages, donc tous les cours que j'ai fait à l'intérieur, puis le colloque aussi qui sortira prochainement. Mais pour l'instant, ce qu'on avait sorti, c'était la leçon inaugurale, « L'être noir » au pluriel, « Deux points des ténèbres à la lumière », qui était sorti pendant que je faisais les cours au Collège de France. Donc voilà comment la littérature africaine est devenue fréquentable au Collège de France, et même Sciences Po, et l'école, je ne sais pas, supérieure, a dit « Oui, mais vous ne pouvez pas venir faire la même chose que nous. » J'ai dit ben, « Il y a beaucoup d'autres Africains qu'il faut pousser vers ce collège-là. »
C'est aussi cette histoire, elle est assez remarquable, parce que c'est aussi une façon de dire qu'à un moment donné de l'histoire, on admet et on accepte enfin l'influence qu'une partie du monde a pu exercer sur la pensée et sur la création universelle. Et vous avez probablement l'un et l'autre des parcours très différents. Mais Metin Arditi, vous êtes aussi, même si vous le disiez tout à l'heure, vous avez quitté la Turquie très jeune, mais vous êtes aussi porteur de toute cette grande tradition incarnée par la Turquie, la tradition orientale. Est-ce que dans vos influences littéraires, vous faites partie de ceux comme Alain Mabankou qui ont des influences au fond très ouvertes au monde et qui ont envie de dire que tous les apports de toutes les littératures du monde contribuent justement à cet universalisme ?
Vous entendez les influences subies ou les influences proposées ?
Ah ben on peut le prendre dans les deux sens.
Les influences subies, pour moi, elles remontent vraiment, je dirais, à la première partie de ma vie. C'est-à-dire que moi, j'ai beaucoup lu jusqu'à 18 ans. Et puis, je suis rentré dans un autre monde. J'ai fait des études de physique. On passe là devant l'école polytechnique. J'étais dans le monde des affaires et je suis revenu ensuite. Quand Alain disait tout à l'heure le plaisir qu'il a à retrouver des livres, j'ai remarqué que tu citais surtout les grands classiques. C'est vrai que on a plus on écrit. Il y a maintenant 20 ans que je suis plus de 20 ans que je suis publié. Plus on écrit. Et plus on devient un lecteur difficile. Pour dire les choses très simplement, on détecte les ficelles. Et ça rend la lecture moins aisée. Moi, j'ai vécu exactement la même chose lorsque je suis devenu président de l'orchestre de la Suisse romande. Pendant 18 ans, j'ai assisté à des centaines de concerts. Et plus j'avançais, et plus c'était difficile pour moi d'avoir le plaisir immense que j'éprouvais au tout début. Parce qu'effectivement, on s'affine. Ma façon personnelle de lutter contre ce genre de je dirais, d'engourdissement, ça a été, mis à part le fait de relire les grands classiques. Ça, c'est sûr que c'est absolument inégalable. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi, de la même manière qu'il y a la musique contemporaine, pas toujours très aisée, mais enfin, il faut quand même lui répondre, il y a l'écriture d'aujourd'hui. Alors, la façon que j'ai trouvée, c'est-à-dire de m'imposer une discipline, je l'ai trouvée à l'occasion d'une rencontre tout à fait fortuite avec Mireille Zaki, rédactrice en chef du magazine Bilan. Moi, j'étais sur la couverture du magazine Bilan il y a 20 ans comme homme d'affaires. Je sais ce que la lecture et la littérature apportent à un homme d'affaires. C'est essentiel. Je sais aussi que les gens qui sont dans les affaires travaillent énormément. Ils ont beaucoup de peine à dégager du temps pour lire des romans. Pourtant, sur le plan même de leur efficacité professionnelle, c'est inégalable. Et alors là, en quelque sorte, on a fait d'une pierre deux coups. Elle m'a proposé la dernière page du magazine. Et donc, moi, chaque 15 jours que sort le magazine, j'ai une critique de deux livres. Et pour faire une critique de deux livres, j'en lis évidemment plus que cela. Ça m'oblige à lire. Ça m'oblige aussi, c'est un peu... La lecture, c'est un peu comme fréquenter un ami, c'est-à-dire qu'on peut s'accrocher sur ce qu'on n'aime pas. « Oh là là, celui-là, il n'est pas sympa, il est comme ci, il est comme ça. » Et puis finalement, quand on connaît mieux quelqu'un, en général, on l'aime mieux parce qu'on commence à aimer ses défauts. On les trouve touchants, on trouve qu'ils sont humains, qu'ils rapprochent. Même chose pour les livres. Et donc, voilà, ma réponse à cette... à ces difficultés que j'ai éprouvées au fur et à mesure de mon activité d'écriture, ça a été de faire de la critique littéraire.
Mais si je me fie, Metin Arditi, aux essais que vous avez publiés, alors on pourrait dire que vos influences sont plutôt européennes, parce que vous avez consacré un essai à La Fontaine, vous avez consacré un essai à Machiavel, et consacré un essai à Nietzsche. Donc là, on est entre la France, l'Italie et l'Allemagne, donc voilà, c'est là un peu votre cercle de...
Tout à fait. Elles étaient européennes, et elles étaient philosophiques, elles n'étaient pas romanesques. Et en fait, moi, quand j'ai commencé à écrire, j'ai eu beaucoup de chance parce que c'est venu comme suite à une rencontre qui a bouleversé ma vie, c'était la rencontre avec Jeanne Hersch, la philosophe. Ça s'est passé vraiment en dehors du monde romanesque et j'ai commencé à lire la philosophie avec elle. Je n'avais pas étudié la philosophie, j'avais étudié la physique. J'ai commencé à lire la philosophie avec elle. Et puis j'ai commencé à écrire ses essais, c'était sympathique, ça allait bien, mais enfin ça allait pas au-delà. Et un jour, pour tout dire, et c'est pas pour me vanter, mais j'étais vraiment d'une rare bêtise. Et je considérais que la littérature romanesque, c'était un peu un truc pour jeunes filles. Enfin, c'était gentil, mais par comparaison à la philosophie, on n'est pas au même rang. Évidemment, c'était d'une rare bêtise. Et un jour, je présente à Madame Hersch mon texte, déjà tapé, mais pas définitif, sur Machiavel. Elle le lit, je la revois 15 jours plus tard, et elle me dit, objectivement, elle avait aimé, pas mal. Mais, à la fin, vous êtes fatigué. Je dis, mais qu'est-ce que je dois faire, madame? Je dois dire que devant Madame Hersch, j'étais un enfant de 5 ans en culotte courte, hein, alors que j'en avais 45. Je dis, qu'est-ce que je dois faire, madame? Et cette femme, qui était la plus grande philosophe de Suisse, me répond, elle me dit d'abord, vous devez vous reconstituer de la pulpe. Et j'avais été très frappé par cette image tellement sensuelle d'une philosophe qui parle de pulpe, c'est-à-dire de quelque chose qu'on touche, qu'on met en bouche, qu'on goûte. Et je dis, comment, madame? Et elle me répond,
lisait un roman. Et vraiment, je suis tombé sur le cul, comme on dit, parce que dire lisait un roman de la part d'une grande philosophe, ça veut dire que j'étais complètement à côté de la plaque, que le roman, c'est pas ce que je pensais, que c'était peut-être quelque chose qui était au contraire au-dessus de la philosophie, qui incluait la philosophie, pour autant que cette philosophie soit moulue tellement fin qu'on ne la détecte plus. Et du coup, j'ai été assez audacieux, j'étais terriblement intimidé par elle, j'étais assez audacieux pour dire « Quel est votre roman préféré ?» Et Madame Hersch me répond du tac au tac « L'idiot ». Et là, je me suis dit que vraiment, il y avait quelque chose qui se passait dans ma vie qui n'allait plus jamais être la même, parce que si la plus grande philosophe de Suisse me disait que pour écrire de la philosophie, il faut commencer par lire du roman, et quel roman ? L'idiot, c'est-à-dire le personnage le plus simple, christique, bien sûr, mais enfin, quand même. Et là, j'ai pris la dimension de toutes mes, si j'ose dire, la dimension de mes limites. Et ça ensuite, évidemment, influé et ça m'a amené à l'écriture romanesque.
Je crois qu'on peut dire qu'il existe des familles d'écriture, comme il existe des familles d'artistes. Alors, sans parler d'école ou de courant réellement constitué. D'ailleurs, on vit une époque où en littérature, il y a peu de courants réellement constitués. Est-ce que vous vous sentez des proximités avec des familles d'écriture, et alors lesquelles ?
Ah, c'est compliqué, hein, les familles, là.
Ah oui.
Est-ce qu'on se sent... Je pense aussi qu'il ne faut pas rester enfermé. Même quand vous êtes... dans une littérature, ce n'est pas forcément la littérature de son pays d'origine ou de son continent d'origine.
Mais quand je parle de famille, je ne pensais pas au territoire. Je pensais à la famille d'écriture.
J'arrivais parce que nous, on a une conception très territoriale de la famille. Donc, il faut que je l'évacue. Voilà. Je sais que c'est la famille plutôt dans le courant, dans les côtés. Mais parce qu'il y a beaucoup, par exemple, dans la littérature africaine, ils pensent que le fait d'être écrivain africain... Forcément, ils font d'une famille, hein, ou géographie. Mais la famille, justement, celle qui est belle, c'est celle qui se crée par la complicité des univers. Le fait qu'il y a une admiration réciproque de nos univers. Ce qui peut arriver, ce qui m'arrive beaucoup, on connaît ma famille la plus publique et la plus... peut-être exposé, c'est avec, par exemple, Dany Laferrière, nous créons une certaine fratrie littéraire autour, même si la famille est très restreinte, mais je me retrouve aussi dans une famille qui va au-delà, qui peut bifurquer du côté de mes amis et collègues comme Mathias Sénard, comme Alexis Génie, qu'on a vu de l'autre côté, mais aussi David Van Reybrouck. C'est des gens avec lesquels, lorsque je suis là, je me sens dans une certaine protection intellectuelle, protection littéraire. J'apprends beaucoup en les lisant et j'espère qu'ils apprennent un peu en me lisant aussi. Et c'est cette famille qui elle-même devient, d'ailleurs le mot est très galvaudé, cosmopolite, inattendue. Vous allez voir quelqu'un qui a une certaine proximité avec telle littérature. Parfois, l'écrivain, il est polonais. Hein, parce qu'on va du côté de Kapuscinski, on se ressent plus proche, ou même un écrivain de l'autre côté qui se sent proche de moi. C'est pour ça que j'ai toujours combattu l'idée, par exemple, quand vous allez en France, vous voyez un écrivain français, chaque fois qu'il passe à la télé, quand on va dire ce qu'il a lu, petit, je lisais à la recherche du temps perdu, après je faisais ceci, j'ai fini tout Balzac. J'attends cette période où je verrai un écrivain européen passer dans les médias dire « Je suis arrivé à la littérature parce que j'étais subjugué par Amadou Kourouma, parce que j'étais subjugué par Mongo Betty, parce que Léopold Sédar Senghor, parce que Césaire, etc. » On n'a jamais cette sorte de réciprocité. On a toujours une idée élevé de cette littérature française qui serait au sommet, tandis que les autres littératures s'exprimant en langue française seraient des littératures périphériques qui graviteraient autour. C'est-à-dire que la vraie littérature, la pure, serait celle écrite par les franco-français, puis les autres littératures auraient un accent. Donc, nous écrivons avec un accent. Et donc, pour nous mieux nous catégoriser, on dirait écrivain francophone. Je veux dire que j'ai plus de probabilité d'être écrivain francophone que, je ne sais pas, que Amélie Nothomb.
Quoique, elle est belge.
Qui a même pas
l'accent belge.
Qui a même pas l'accent belge. En général, oui. Parce que dans l'esprit, ça c'est...
C'est dommage, ce serait rigolo.
Ça ne vient pas, voilà, ça ne vient pas forcément des autres écrivains de Belgique, de Suisse, de Québec ou quoi. Ça vient de la France. En France, quand on est dit écrivain francophone, on oublie que l'écrivain français aussi est un écrivain francophone. Donc c'est déjà une cause de rupture familiale. Là où on aurait fondé une famille qui serait basée sur peut-être la communauté de la langue, à l'intérieur de cette communauté, il y a des gens qui font des coups d'État permanents pour rester comme les unités de mesure. Et nous, nous serions ceux qui porteraient les valises de ces maîtres pour les porter plus loin. Donc là, la famille, c'est s'entraider. La famille, c'est dire, nous avons quelque chose en commun. Mais la chose en commun dont nous avons, il y a une partie qui s'est dit, nous l'avons inventée, vous devez suivre. Nous sommes l'unité de mesure. Donc cette famille est à inventer, surtout dans l'espace de la littérature écrite en français, parce que chez les hispaniques, chez les anglophones, chez les lusophones, la question ne se pose même plus. Il y a une grande famille dans laquelle il y a des sensibilités comme dans toute famille, hein. Quand vous avez une famille, il y a des bons, il y a des méchants, il y a des gentils, il y a des conciliants, il y a ceci, il y a cela, mais on ne la divise pas en se disant ceux-là sont inférieurs et les autres sont supérieurs. C'est pour ça que moi je suis plus vers les connexions qui me portent ailleurs, parfois même hors de l'espace de la littérature écrite en français. Je me sens proche des écrivains comme les Salman Rushdie. Je me sens proche, je ne sais pas, des écrivains, j'ai cité les Haïtiens, mais il y en a un peu partout dans le monde que je lis et je me dis, mais je suis très proche de cet écrivain, je suis très proche de cette littérature. Mais cette famille-là, ça s'invente tous les jours. Et quand on l'a inventée, il faut aussi l'entretenir par un certain respect réciproque. Aujourd'hui, la famille en littérature française est une famille factice, est une famille d'intérêt, comme dans la plupart de beaucoup de familles. Il y en a qui attendent l'héritage, qui ne vient jamais. Il y en a qui veulent tuer le père pour être déjà...
C'est une corporation.
Voilà.
C'est plus une famille.
Et voilà. Et à nous autres...
Une société anonyme.
Voilà. Et à nous autres Africains, parfois, pour nous calmer, on voudrait nous faire des donations, comme dans les successions, on dit, avant, on voulait faire... Non, il n'y a plus de donations. Le chef de famille... Et peut-être malinqué du côté, je ne sais pas, de la Côte d'Ivoire. Le chef de famille est peut-être turc. Hein, il est peut-être là, à côté de nous.
Là, oui, absolument, hein,
au milieu de nous.
Oui.
Donc je me sentirais...
J'allais le dire, mon cher.
Mais oui, j'allais le dire. Voilà. Donc, Métine, par exemple, je me sentirais plus proche parce que quand il va raconter, il raconte son histoire, son itinéraire, pour moi... Pourquoi je me sens proche? Parce que je me dis, mais c'est un Africain, il a la même histoire que moi. Et lui, il va dire, mais c'est un Turc, il a la même histoire que moi, ou c'est un Suisse, il a la même... C'est ça, la famille. Mais cette réciprocité, je ne la trouve que chez les écrivains venus d'ailleurs. Je me sens, quand je suis dans le rapport de la littérature française, j'ai des rapports parfois qui sont froids. Il y a une condescendance. Le pire, quand vous faites de la condescendance vis-à-vis de quelqu'un, c'est de vous dire que la personne n'a pas vu la condescendance. Mais je fais semblant. Je joue le jeu. Mais le moment venu, quand les choses se retournent, je montre la nudité de cette sorte de création qui n'est en quelque sorte que de la pacotille. Parce que la vraie littérature, qui, elle est là, c'est la vie de l'auteur. Chaque fois qu'on écrit un livre, on met sa vie en danger. On met sa vie sur la balance. Nous ne sommes pas des écrivains qui sortons comme dans une opération de David Copperfield. Il y a quelque chose. On écrit parce que Les concours des circonstances ont fait, on a lu, on n'a pas lu, on a fait ceci, on a connu cette existence, et puis il y a une voix qui nous parle. Ma famille, c'est tous ceux qui peuvent entendre cette voix, tous ceux qui peuvent se dire, mais je me reconnais dans cette histoire, malgré la géographie qui nous sépare, malgré l'histoire qui nous sépare, en fait, nous formons cette grande famille qui se retrouve dans les livres de chacun d'entre nous. Déjà, la première famille serait le fait que tous les écrivains sont des parents. L'inspiration qu'a Métine, quand il est obnubilé par un roman, c'est la même que je vais ressentir quand il est traversé par les... quand il écrit, quand il a des pannes d'écriture, c'est la même chose. Par la suite, l'enfant qui sort, il peut être un peu bronzé, c'est normal. C'est le son du papa ou de la maman. Mmh. Voilà.
Métine Arditi. Bon. Métine Arditi, sur cette famille des écritures de langue française.
Ça me rappelle une chanson de Harry Belafonte qui dit l'inverse. Quand il dit « woman smarter », Harry Belafonte dit « mais je vais voir l'enfant que je pensais être de moi et je vois qu'il a les yeux bleus
voilà. ». Ça peut être l'inverse.
Ça peut être l'inverse. Oui.
Cette famille de langue française dont parlait Alain Maimoncou, à laquelle vous participez de fait par vos textes.
J'y participe de fait, mais vraiment de dehors. Ça, il faut le dire de façon très, très claire. Et moi, donc, toi, tu as étudié le droit. C'est quand même quelque chose qui a à faire avec la langue. Moi, j'ai étudié la physique. Donc, je me suis constitué, en quelque sorte, ma famille by bits and pieces. Et ce que je constate, après quand même un certain nombre de tours de piste, d'écriture, de lecture, etc., ce que je constate, c'est que oui, il y a un dénominateur commun dans les auteurs que je chéris, que je lis et que je relis. Et ça, c'est très net. Ce dénominateur commun, ce n'est absolument pas la langue française. Ce dénominateur commun, c'est l'exil. Et donc, j'ai mes auteurs fétiches qui sont Musil, qui sont Italo Svevo, qu'on considère comme le Proust de la langue italienne, qui n'a écrit que 3 romans et quelques contes, mais qui sont des chefs-d'œuvre absolus. Yad Zweig. Il y a ces écrivains. Et bien sûr, celui qui était en exil permanent. C'était Kafka, n'est-ce pas? Donc, pour moi, finalement, l'écriture répond à ce besoin de se retrouver, ce besoin de pouvoir communiquer avec autrui lorsqu'on se sent seul. C'est évidemment la réponse à la solitude la plus profonde, la plus existentielle, la plus essentielle. Et la famille que je verrai autour de moi parlerait vraiment toutes sortes de langues. Je ne suis pas sûr que j'écouterai beaucoup de français.
Il y a peut-être...
En tout cas, eux, ils vous écoutent. Hein,
ouais,
beaucoup.
Ouais, ils écoutent.
Beaucoup
ouais,
même.
Ouais, je ne sais pas. Ouais.
Alors, il y a peut-être un lien, là, pour le coup, entre ce que vient de dire Métine Arditi sur cette famille qui se constitue autour des écrivains qui ont vécu l'exil et qui en restituent l'expérience dans leurs textes, et le fait, Alain, si je regarde dans votre dernier livre, donc Le Monde et mon langage, il y a, par exemple, des écrivains du monde que vous citez, comme Jean-Marie Le Clézio, et qui est quelqu'un qui vit entre plusieurs continents, qui est quelqu'un qui vit une sorte d'exil constant. C'est une sorte de troubadour qui est toujours entre deux pays, entre deux continents. Il fait partie de ces auteurs qui ne se fixent nulle part.
Oui, c'est peut-être même cela la conception de ma famille. Maintenant, là que la question l'avait été posée, je vais retenir ça pour l'argumentation quand je vais présenter le livre de temps à autre. Voilà. En fait, toute ma famille, je l'ai mise dans ce livre, Le Monde et mon langage, puisque Le Clézio, qui ouvre le livre, c'est l'écrivain même du monde. C'est quelqu'un qui sait qu'est-ce que l'exil, qu'est-ce que l'autre. Puisque tout petit, je ne sais pas, il quitte sa ville natale du côté de la France à Nice, pour aller de l'autre côté à l'île Maurice, en Afrique, au Nigeria, où il a passé toute une enfance qu'on voit dans l'Africain. Donc moi, ce qui m'intéressait par exemple dans ce livre, c'est de savoir quelle est la part de l'Afrique chez l'Ecclésio. Et d'autres écrivains qui sont là, comme l'Édouard Glissant, comme l'Édouard Manet. Vous prenez l'exemple d'Édouard Manet, c'est un Cubain qui écrit en français. Et moi, j'avais trouvé ça intéressant. Moi, je pensais que c'était une famille, les écrivains cubains. Je raconte dans les livres comment j'ai assisté presque à une bagarre dans le radeau de la Méduse. On était en Guadeloupe pour donner un prix littéraire à un écrivain insulaire. Et la liste, dans la liste, oui, les finalistes, comme par hasard, il y avait 3 Cubains. Il y avait donc Eduardo Manet, Zoé Valdés et puis Monteiro qui publie chez Gallimard. Moi, je me dis, ah bon, c'est des Cubains, ils sont dans la famille, ça va bien se passer, tout. J'arrive, nous sommes là. Mais Eduardo Manet, lui, il était en fait membre du jury avec nous. Donc, il était donc disqualifié dans ce sens pour le faire. Donc, mais le problème, c'est qu'il devait juger les Cubains. Mais ce n'était pas facile. J'arrive là-bas au lieu qu'on parle de littérature. Les 3 ne se parlaient pas parce que chacun ne savait pas qui était du côté de Fidel Castro ou pas. Et ajouté à cela, il se battait le titre de l'écrivain cubain le plus français. Donc, du coup, bon, Zoé Valdés, c'était l'écrivain cubain le plus français, c'était à l'époque Eduardo Manet. Il a eu le concours des lycéens, il a été connu. Puis est arrivé Zoé Valdés, qui, lui, revenait de Cuba, travaillait, dirigeait le cinéma national. Donc, était un peu du côté aussi cacique, mais qui s'était départi du régime de Castro et venu. Mais Eduardo Manet, à l'époque, lui-même était un grand ami de Fidel Castro. Donc la bataille, au lieu que ça se fasse en France, on est allé la voir de l'autre côté des îles. Donc je vois même que la notion de la famille, même en littérature, là, ça s'éclaterait. Donc quand j'explique cette bataille à travers l'interview que je fais d'Eduardo Manet, il dit, bah, écoutez, si je vote pour celui-là, il ne sera pas d'accord. Si je vote sur celui-là, il ne sera pas d'accord. Finalement, je n'ai voté pour personne. J'avais voté blanc, c'est le cas de le dire, en l'occurrence. Voilà. Et moi, je ne pouvais pas voter noir, donc voilà. Donc, il avait voté. Donc, nous avons fait gagner, je crois qu'on avait fait gagner la Montero, là, mais c'était tout un problème. Les autres Cubains ne lui parlaient plus, c'est pas possible. Zoé Valdés ne parlait plus à Eduardo Manet. Zoé Valdés ne me parlait plus parce que j'étais proche d'Eduardo Manet. Et j'ai compris que la famille en littérature, lorsque se mêle la politique, lorsque se mêlent les problèmes nationaux, c'est une poudrière dans ce sens. Donc je pense aussi que c'est cette famille-là que j'ai essayé de reconstituer en voyant comment les écrivains de demain, peut-être que la complicité va se créer par cette langue du monde, cette façon de percevoir le monde et de faire de sorte que notre culture devienne la culture de la rencontre, de la complicité. On se croise aujourd'hui, nous créons des souvenirs communs, nous aimons peut-être les mêmes livres, on a le même éditeur, et ça crée finalement une famille dans laquelle, si un écrivain congolais arrivait, pour moi, l'étranger ne devient plus métine, mais c'est le Congolais qui est étranger. Et je l'avais même dit à l'époque que quand j'ai lu un écrivain comme Wole Soyinka, qui est du Nigeria, il a écrit en anglais, c'est un autre univers. Je ne connais pas trop bien les réalités là-bas. Et je me sentirais même plus proche d'un écrivain comme Véronique Ovalde, qui est française, avec laquelle je partage des moments de littérature et autres. Nous avons des choses en commun. Donc, c'est des familles dans lesquelles on retrouve des membres inattendus. Alors que souvent, dans vos familles, dans les nôtres, on sait déjà, ben, c'est mon oncle ou quoi. Mais dans la famille littéraire, l'oncle peut avoir un visage bizarre. Mais on est obligé de faire avec.
Mais en France, il faut dire quand même une chose, n'est-ce pas ? C'est que malgré tout, la spécificité de la France, c'est Paris, c'est la capitale, c'est très concentré, et du coup, c'est assez difficile de ne pas se parler. Donc tout le monde se parle. Maintenant, question sentiment, c'est une autre paire de manches. Mais c'est vrai aussi que tout le monde se parle. Et moi, je remarque en tout cas, indépendamment du fait que ce n'est pas vraiment les grands auteurs traditionnels français qui font ma famille de référence de lecture, mais je vois en tout cas qu'entre auteurs qui coexistent, les relations sont très sympathiques. Entre écrivains, pas seulement au sein d'une même maison, mais en différentes maisons, on se retrouve avec... vraiment, c'est assez sympathique. Ça, c'est, mais je pense que c'est aussi une question de survie, parce que tout le monde se croise, n'est-ce pas ? C'est non seulement dans une ville, mais quasiment dans un arrondissement, comme tu sais.
Et ça, c'est la question de l'institution littéraire qui est encore une autre...
C'est une spécificité française.
Oui. Mais au sein de la famille, à travers ce que disait Alain à l'instant, il y a aussi cette caractéristique que chacun doit trouver sa place dans une famille. Donc chacun doit pouvoir définir son cercle d'influence et donc son identité littéraire. Je parle d'identité littéraire.
Du temps des Ottomans, les princes héritiers avaient le droit de faire tuer tous les frères, n'est-ce pas ? Mais ça n'existe pas en littérature.
Quoique, il y a des formes de meurtre qui sont... Bon. Est-ce qu'il faut, selon vous, payer ses dettes littéraires de la même manière qu'on paye une dette lorsqu'on a emprunté de l'argent à quelqu'un ? Est-ce qu'il faut dire... Enfin, j'emploie l'expression « est-ce qu'il faut... »
Reconnaître, vous entendez ?
Est-ce qu'il faut dire ce que l'on doit à ceux qui vous ont précédé en littérature et qui ont eu un impact sur votre façon de voir le monde ou de concevoir la littérature.
On peut évidemment citer des noms, reconnaître, etc. Mais au fond, tout cela est quand même assez secondaire. Je crois que la dette que l'on doit payer, sa monnaie, c'est le travail que l'on met dans l'écriture. De la même manière que lorsqu'on reçoit un héritage, la façon que l'on a et la meilleure d'honorer cet héritage, c'est d'en faire quelque chose. Ce n'est pas tout simplement de remercier, mais d'en faire quelque chose. Et c'est vrai, c'est ce à quoi nous sommes confrontés au moment où on travaille un texte, c'est que pour être digne de nos pères, de nos pères en écriture qui peuvent être effectivement de toutes sortes d'origines, la seule attitude juste et noble, c'est de travailler.
Alain ?
Bon, j'ai même l'impression parce que j'ai passé tout mon temps pratiquement à payer les dettes, hein. Je ne savais pas que j'étais endetté à ce point. Voilà. Parce que, bah oui, je suis tellement endetté que je ne fais que payer. Je ne sais pas quand est-ce que je commençais à avoir du crédit dans mon compte. Mais bon, ça finira par... Il ne faut pas parler d'argent en Suisse. Hein. Ça finira par arriver. Je pense que quand je vois certains... J'ai écrit, par exemple, si on dit directement... J'ai écrit un livre sur James Baldwin, Lettre à Jimmy. Vers cassé, c'est un roman dans lequel il y a plus de 300 écrivains qui se baladent à l'intérieur. Le dernier livre que j'écris, c'est bourré d'écrivains. Sauf que là, on les voit, je paye la dette autrement puisqu'ils sont des personnages dans les histoires que je raconte. Si je parle de l'Ecclésio, il n'est pas assis. On nous voit discuter, on a des dialogues à l'intérieur du livre, on marche, etc. Les manées, quand je raconte tout ça, c'est une façon de rendre... Mais est-ce que vraiment, là, c'est là où je reçois Métine, est-ce que c'est vraiment une dette ? Je ne pense pas que ce soit forcément une dette, parce que s'il faut payer la dette, si je paye la dette à l'Ecclésio, lui-même, il a payé la dette à quelqu'un qui est... Finalement, qui a eu le fond en premier pour... voilà. Hein ? Parce que même si vous grattez chez La Fontaine... Ben, il doit payer les dettes chez Aesop. Donc, on n'en finira jamais.
Et aussi, si tu payes la dette, ça veut dire que tu ne dois plus rien.
Je ne dois plus rien.
Et ça, c'est impossible.
C'est pas possible.
Voilà.
En écriture, il faut devoir quelque chose.
Absolument.
Donc, ouais, je pense que c'est vrai. D'où ça rejoint, c'est vrai, la question de l'influence que nous avons ici. Hein. D'être, mais c'est plutôt hommage. Parce que,
d'héritage, voilà. Peut-être, et, davantage peut-être que de d'être. Il y a ça. Des héritages littéraires.
Il y a des héritages.
Reconnaître.
Proximité, peut-être aussi même une certaine... Ça peut être... pas forcément dette, parce que dette, si tu ne payes pas, tu es foutu quand même. Tu peux aller en prison. Donc, on n'est pas obligé de reconnaître. Il y en a même qui passent leur temps, quand ils écrivent, d'effacer toutes les influences pour dire qu'ils ont inventé le fil à couper le beurre. Mais donc, je ne peux pas rester dans cette situation, dans la phrase. Ce que je voudrais, c'est qu'on puisse, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure, qu'on puisse reconnaître un peu les influences de toute littérature sans pour autant en faire des hiérarchies. Et moi, j'ai comme l'impression que lorsque beaucoup ont une dette ou bien ont un hommage à rendre, par exemple, à un écrivain d'Afrique ou à un créateur d'Afrique, on ne le fait jamais assez. Si les gens devaient payer les dettes, Picasso payerait des dettes pour avoir une influence sur l'art nègre, on appelait à l'époque, qui a poussé le surréalisme aussi à un stade supérieur. On a beaucoup d'éléments. Mais est-ce que c'est une dette? Je ne pense pas. Ça fait partie peut-être de notre bien commun. Tout ce qui sort de l'esprit de la création, on le fait pour le destin de notre humanisme. À ce titre, ça appartient peut-être à une grande corbeille. Chacun vient selon sa générosité ou bien son outrécuidance. Il peut reconnaître ou ne pas reconnaître, mais ce n'est pas une obligation. Et je ne pense pas même que ce soit une dette. C'est simplement une admiration, une reconnaissance et une complicité.
Et on peut ajouter quand même quelque chose aussi sur la finalité de ce que l'on reçoit. La finalité de l'art nègre qu'a reçu Picasso, c'était quand même, pour honorer cet art, que Picasso le métabolise, qu'il en fasse en quelque sorte une composante de son propre génie. Donc effectivement, il y a une limite au parallèle que l'on peut pousser même avec un héritage, c'est que la finalité, le propos de l'art, n'est pas d'être identifié comme tel, mais d'être un élément de transformation, de métamorphose de ceux qui ensuite continuent l'aventure, continuent par le dessin, la peinture, l'écriture, le théâtre.
On va passer ensuite la parole au public pour qu'on puisse vous poser d'autres questions. Mais la dernière que je vais poser, parce que vous l'introduisez, Alain Babancou, dans votre dernier livre, c'est celle des trois livres que vous emporteriez sur une île déserte. Elle a l'air anecdotique, cette question, et en fait, elle est importante parce que moi, je connais votre réponse et elle dit beaucoup, en fait. Elle dit beaucoup de ce que vous êtes en tant qu'écrivain, finalement. Quand on fait le choix de sélectionner trois livres de la littérature universelle de tous les temps, on dit beaucoup de ce que l'on est en tant qu'auteur.
Oui, sauf que ces trois livres aussi peuvent varier. Hein, parce que
là, en l'occurrence, vous en citez trois.
Voilà. Ces trois livres peuvent varier, mais ceux qui reviennent le plus souvent, on connaît mon goût pour les livres qui prônent l'amitié, qui prônent aussi la fraternité, le courage, la résistance. Quand je cite un livre comme le livre de ma mère, c'est que je suis quelqu'un qui est venu à la littérature par cette admiration que j'avais pour ma mère. Et c'est le seul livre que j'ai lu qui a pu m'arracher des larmes. Donc j'ai un rapport physique, émotionnel avec ce livre, surtout les premières pages. Quand Cohen commence à se demander, voilà, j'ai décidé de dire à tous les peintres qu'ils ont du génie, sans ça ils vous mordent. Mais lorsque tombe le soir, je n'en pense pas moins. Mais c'est une beauté extraordinaire. Oh, toi, ma plume, vole, cours, les gens du dehors. Mais c'est qui ces gens du dehors? Donc, j'avais l'impression de quelqu'un qui était dans sa douleur quelque part. Et puis, il n'avait plus comme interlocuteur que cette inspiration, cette muse, cette mère qui a disparu, cette maman où il s'est rattaché. Quand je prends un livre comme des souris et des hommes de Steinbeck, c'est parce que j'ai cette admiration aussi pour ce que je considérerais comme une amitié déséquilibrée entre quelqu'un qui est peut-être ce qu'ils appellent là-bas un loser, quelqu'un qui, et puis l'autre qui est comme le meneur, mais nous sommes quand même soudés dans une certaine amitié. Ça, c'est un texte que j'avais repris parce que c'était une question qui m'était posée à l'époque par le magazine Lire. Et puis, j'avais trouvé qu'il était nécessaire qu'on voit aussi qu'en dehors du fait que je suis africain, je suis né au Congo-Brazzaville, les livres que je peux emporter, c'est pas toujours, je ne veux pas toujours amener forcément le soleil des indépendances de Kuruma ou, je ne sais pas, Champ d'ombre de Léopold Sédar Senghor. Ça peut être un écrivain suisse, ça peut être un écrivain américain, ça peut être un écrivain guinéen, ça peut, c'est cela aussi la force de des influences, des livres qui vous ont marqué, qui vous ont bousculé, que vous relisez, Le vieil homme et la mer d'Hemingway, pour cette résistance entre le vieux qui va à la pêche, chaque fois il revient toujours bredouille, puis il y a cette bataille avec un gros poisson, le petit gamin qui est là, qui pouvait aller pêcher avec les autres qui, eux, prennent des poissons tous les jours, mais je suis là fidèle dans la défaite comme dans la victoire. Hein, comme dirait mon ami Laurent Godet, écoutez nos défaites, parce qu'en écoutant ces défaites, on pense aussi à la victoire. C'est des livres qui m'ont permis de quitter ce pessimisme et peut-être même cette âme d'adolescent qui était très meurtrie pour penser que je peux avoir un sauvetage avec la littérature. Mais bien entendu, si je vais dans une île, il faut que j'amène aussi deux autres livres, le dictionnaire et la Bible. Hein? Parce que dans les dictionnaires, comme disait l'autre, il y a tous les livres qui sont à l'intérieur et la Bible va me permettre de faire des prières sans pour autant galvauder la parole de Dieu, si c'est vraiment d'elle qu'elle venait. Quoi. Voilà.
Mais Tinarditi, cette
Alors,
même
après tout ce que j'ai dit, que de méchanceté sur la littérature francophone, je dirais que le premier livre que je prendrais, sans la moindre hésitation, ce serait Les Fables de La Fontaine. Parce que cette langue me réjouit, c'est la langue d'un danseur. La Fontaine danse sur un fil, c'est un funambule, et je crois qu'il est inégalé sur ce plan de l'élégance. Je prendrai également, je pense, la Portnoy's Complaint, la complainte de Portnoy, parce que précisément, Roth montre, et ça, ça a toujours été pour moi une lutte, de quelle manière il est arrivé à se détacher du communautarisme juif. Mm. Il est juif comme moi, mais il a acquis une liberté par l'écriture qui a fait du reste grand scandale aux États-Unis. Ça reste pour moi un romancier absolument majeur. Et j'ai adoré ce livre que je relirai avec un immense plaisir, à la fois parce qu'il est drôle, il est cruel et il est vraiment un étendard de liberté.
C'est Philippe Roche, je crois que c'est traduit par c'est le complexe de Portnoy, c'est ça ?
Complexe de Portnoy,
c'est ça,
exactement.
La traduction en français,
parfaitement.
Voilà, voilà.
Le complexe de Portnoy. Mmh. Et puis, je pense qu'à ce moment-là, s'il fallait en choisir un troisième, je prendrais quelque chose d'un peu plus épais. Et ce serait probablement les frères Karamazov. Parce que là, il y a à lire et à relire, il y a à se perdre, il y a cet épisode, tu parlais de la Bible tout à l'heure, il y a dans les frères Karamazov, le grand inquisiteur, tu sais, ce petit épisode qui est en quelque sorte un roman dans le roman, qui fait une soixantaine de pages, pas plus, mais qui est d'une profondeur insondable. Et on peut le lire 100 fois, on retrouve toujours quelque chose qu'on a raté et le germe d'une nouvelle réflexion. Voilà, je pense que ce serait cela. Les Fables de La Fontaine, Le complexe de Portnoy et les frères Karamazov. Maintenant, évidemment, je demanderai une faveur spéciale.
Oh, bah oui, ça,
je voudrais quand même prendre quelques bouquins d'Alain Babancourt. Comme ça,
c'est... Ah non,
pas... non franchement.
Il va s'ennuyer dans son île.
Et je lui dirais en post-scriptum, franchement Alain, tu pourras en faire autant pour mon compte. Hein.
Puisque nous serons dans des îles voisines.
Non mais tu sais quoi, voilà. Je vais te dire, oubliez ce que je prends
bientôt.
Que des bouquins d'Alain
Babancourt. Je viendrai dans l'île, alors ça va, il y en a, ça marche bien.
Voilà. Ce serait des îles où on communiquerait, et on pourrait échanger les livres, c'est nettement plus. Bien, il reste un tout petit moment, on est en chemin pour le retour, mais je pense qu'on a encore un tout petit moment pour vos questions, s'il y en a, et elles sont les bienvenues. Sur ce sujet inépuisable des influences littéraires, on a dit fort peu de choses finalement, hein, parce que c'était. On a dit beaucoup et peu parce que c'est énorme au fond.
Ah bon, on a dit peu. Je suis déçu là. On a tout fait là.
On a tout fait. C'est fini.
Oh, non, d'accord. On avait quand même. On a dit beaucoup là.
Oui. On a dit beaucoup.
On est pratiquement...
Notamment qu'il a fait la promesse qu'il irait dans une île avec tous mes livres.
Voilà.
Non, écoute, je suis désolé, je n'ai pas dit tous, j'ai dit que.
Parce
que
si
j'en prends trois, ça suffit. Ils sont suffisamment profonds. Dis pas le contraire. Non.
Moi, j'irai avec ça dans l'autre île aussi.
Oui.
D'accord. Le même titre, mais en plusieurs exemplaires, on ne sait jamais, peut-être tout d'un coup, il y a une espèce humaine qui va se dire « Quel livre vous lisez là ?»
Un vendredi qui arriverait tout d'un coup.
Voilà.
Génial.
Oui, la première question, je vous en prie, allez-y.
Dans quelle langue nous écrivons ? Moi, j'écris en français. Il m'arrive très souvent, je crois pratiquement dans chacun de mes livres, d'avoir des incrustations dans d'autres langues, parce que c'est un petit peu mon passé. Ça ne plaît pas toujours à mes éditeurs qui me rappellent que j'écris en français. Donc, j'essaie de les limiter. Mais ma langue, c'est le français. Sans l'ombre d'un doute, ma langue, c'est le français.
Bon, moi j'ai... d'autres langues en arrière-plan, les langues africaines, puisque vous savez, en Afrique, il y a tellement de langues que pour se faire comprendre, il faut en parler à peu près entre 7 et 10. Hein, puisque rien qu'au Congo-Brazzaville, on est 4 millions, mais il y a des centaines de langues. Chaque tribu voulant avoir son identité linguistique, même si c'est proche, mais c'est une autre langue. Donc, en parlant le Lingala, le Munukutuba, le Bembe, le Teke, le Vili, le Sundi, et en comprenant d'autres. Évidemment, quand j'écris en français, il y a forcément la bataille, invisible peut-être pour d'autres, la bataille intérieure de ces langues. Il arrive même que quand vous êtes en train d'écrire dans la langue française et que la réalité que je vais exprimer n'existe pas dans la langue française, mais elle existe dans mes langues, là se trouve le grand problème de nous autres qui avons commencé à apprendre la langue française à l'âge de 6 ans. Puisque avant de 0 à 6 ans, on évolue dans le quartier. Toutes ces langues que je parle, les 7 là, sont des langues orales. Hein. C'est, il n'y a pas de littérature écrite là. Il y a une littérature orale dans ça. C'est-à-dire par les contes, par les légendes, par les charades, par les mythes. On nous communique l'imaginaire et la cosmogonie. De notre pays par le biais de ces langues. Mais maintenant, lorsqu'il arrive que nous devenons écrivains, il y a des phrases, quand on écrit, on a l'impression, pour l'œil d'un éditeur occidental, il pense que la phrase boite. Mais si on l'épure, ce n'est plus moi. Donc il faut laisser parfois une certaine... écriture, bien sûr, et certains critiques littéraires dans l'empressement vont dire « Oh, qu'est-ce qu'il magnifie notre langue ! C'est, il habille, je ne sais pas, de ceci, c'est coloré, on trouve tout !» Pour vous donner toujours le côté exotique de la langue. Mais on ne fait pas forcément de l'exotisme. C'est parce qu'à un moment donné, on ressent que la langue française elle-même a une certaine limite. Et cette limite-là, pour moi qui viens de là-bas, parfois, quand il y a la limite, je suis obligé d'inventer quelque chose. Mais je l'invente directement dans la langue française. Je donne souvent un exemple qui est devenu récurrent. C'est que dans ces langues africaines-là, on n'a pas beaucoup de synonymes. Alors que la langue française, hein, les synonymes y va. Hein. Donc, y a tellement de synonymes que je peux dire la même phrase qui peut signifier 10 choses différentes. Comme on n'a pas beaucoup de synonymes, eh ben, y a une profusion d'images. Donc, c'est des langues beaucoup plus imagées que conceptuelles. Donc, nous faisons l'économie des synonymes. On dit on leur laisse les synonymes. Nous, on plaque les images. Et l'avantage qu'on va avoir, puisque le problème avec les images, c'est que si on prend des mots, ben rien qu'avec une image, je peux vous dire des tonnes de choses là-dessus. J'ai mon image qui est là, elle est peut-être figée, mais les mots de la langue française vont me permettre d'interpréter de manière multiple cette image qui vient de ma langue. Et puis parfois, quand on parle dans la langue française, je sens qu'elle est incomplète. Bon, vous allez dire, c'est prétentieux de dire la langue française est incomplète. On prend l'exemple que je donne souvent. Dans la langue française, vous avez l'expression « il m'a roulé dans la farine ». Mais quelle farine ? De manioc ? De maïs ? Il y a plusieurs sortes de farines qui n'ont pas le même parfum, qui collent. Certes, la farine de maïs peut aller vite, mais la farine de manioc, quand ça vous a collé la chemise... Vous mettez dans le... Rien, ça ne sort pas. Donc, quand un Congolais vous dit « Tu m'as roulé dans une farine de manioc », ça veut dire que la situation est désespérée. Quand tu vous dis « Tu m'as roulé dans une farine de maïs », ça va, je peux m'en tirer. Donc, vous voyez, donc la langue française, en disant « Tu m'as roulé dans la farine », est incomplète. Et on complète avec nos éléments à nous. Voilà.
Oui, monsieur. Oui, on a encore le temps pour une question.
Alors, la traduction que j'ai eue jusqu'alors en Afrique, c'est le Swahili et le Kikuyu. Hein? Mais on ne peut pas traduire en Lingala puisque personne ne va lire. Swahili, Kikuyu, le Wolof, j'ai aussi le Wolof que Boubacar Boris Diop est en train de traduire. C'est des langues vraiment qui ont une littérature écrite, que ce soit Swahili, Kikuyu, Yoruba, Igbo, c'est des langues écrites. Vraiment, le Wolof, y a une écriture et il y a une littérature. Mais je ne peux pas les traduire, par exemple, en Lingala, en Munkutuba, parce qu'il n'y a pas une littérature, donc pas forcément des gens qui vont lire. Le pire même, c'est que quand vous traduisez votre livre dans une langue africaine, la colonisation a tellement travaillé que l'Africain vient et dit « Mais tu ne l'as pas en français ?» Donc, alors qu'on fait tout pour aider, pour épauler la langue. Fait, « Ah, mais tu ne l'as pas en français parce que je n'ai pas l'impression que c'est un livre. Hein. » Donc, il arrive là. Pour que ça soit un livre, il faut que ça soit en français. Il va dire, attends, Munkutuba, là, tu vas me dire que c'est un livre. Donc, il ne va pas croire, forcément. Donc, moi, je suis fier de ces traductions qui sont en langue, dans des langues africaines. Et on avait fait mieux. Comme les langues, là, sont orales, quand j'avais sorti quelques-uns des romans, on avait fait adapter ces romans au théâtre, mais dans les langues congolaises. Ah là, c'est, tout le monde était content. Parce qu'imaginez, vous avez votre roman qui est là, dramaturge local a pris tout, a traduit. Là viennent et les lettrés et les illettrés. Donc, tu vois, la maman, la grand-mère qui vient, qui s'assoit, il dit, il se met à rire, il dit, « Ah, c'est lui qui a écrit cette histoire. » Je dis, « Mais grand-mère, c'est moi. » « Ah bon ?» Donc, il y a la force de l'oralité qui doit aller du côté du théâtre. Je pense qu'il faut qu'on multiplie les canaux de la littérature, pas simplement les traductions de langue à langue, mais les traductions aussi de l'écrit à l'oral.
Bien, je voudrais rappeler vos derniers titres respectifs. On est en train d'arriver. Métis Narditi, oui, moi là, on n'a plus le temps. On va. Le bateau arrive. Métis Narditi, l'enfant. Mais vous parlerez après de manière personnelle. Oui, sinon, on va. Voilà, il faut qu'on sorte du bateau. L'enfant qui mesurait le monde, donc vient de paraître chez Grasset. Et puis Alain Mabankou, Le monde et mon langage, chez le même éditeur. Donc, vous avez
on a monde
cette famille-là. Cette famille-là
en commun.
Le même éditeur. Merci infiniment à vous deux. Merci beaucoup. Merci.